Thomas Hardy. Le maire de Casterbridge. Chapitre 10. Elle restait assise sous l'œil de l'Écossais lorsqu'un homme parut au seuil de la pièce, au moment même où Henchard ouvrait la porte de son bureau pour appeler la jeune fille. D'un geste aussi décidé que celui du plus vif des infirmes de Bethesda, le nouveau venu la devança et entra à sa place. Elisabeth l'entendit se présenter à Henchard. « Joshua Jopp, le nouveau régisseur, venu sur votre convocation. »«
Le nouveau régisseur ? Il est dans son bureau, »
répondit brusquement Henchard.
Dans son bureau ? » balbutia l'homme éberlué.
« Je vous avais dit de venir jeudi, » reprit Henchard, « et voyant que vous n'étiez pas arrivé, j'ai pris un autre régisseur. J'avais d'abord cru que c'était vous. Croyez-vous que j'ai le temps d'attendre lorsqu'il s'agit d'affaires ?»«
Vous aviez dit jeudi ou samedi, monsieur, » fit le nouveau venu, en tirant une lettre de sa poche.
« Il est trop tard, voilà tout ce que j'ai à vous dire, » trancha le marchand de blé.
« Vous m'aviez presque engagé, » murmura l'homme.
« Sauf entente, » corrigea Henchard. « Je suis fâché pour vous, bien fâché, je vous l'affirme, mais il n'y a rien à faire. »
L'homme n'avait pas à répliquer, et il sortit du bureau en passant devant Elizabeth Jane. La jeune fille vit sa bouche trembler de colère et remarqua l'amer désappointement qui se lisait sur tout son visage. C'était au tour d'Elizabeth d'entrer et de se trouver devant le maître de la maison. Ses pupilles sombres, où paraissait toujours luire une étincelle rouge, qui ne devait pas s'y trouver sans doute, tournèrent machinalement sous ses sourcils noirs pour se poser sur la jeune fille. « Et alors, qu'y a-t-il pour votre service, mon enfant ? » demanda-t-il d'un ton cordial.
« Puis-je vous parler, monsieur ? Il ne s'agit pas d'affaires, » répondit-elle.
« Mais oui, sans doute. »
Henchard la regardait plus attentivement. « Je viens vous dire, monsieur, » reprit innocemment Elisabeth, « qu'une parente éloignée à vous, une parente par alliance, Suzanne Newson, veuve d'un marin, est en ville et vous demande si vous voulez bien la voir ou non. »
Le visage coloré d'Henchard pâlit légèrement.
« Oh ! Suzanne ! Elle vit encore ? » demanda-t-il avec effort. « Oui, monsieur. »
« Vous êtes sa fille ?»«
Oui, monsieur, sa fille unique. »«
Et comment... vous appelle-t-on, votre petit nom ?»«
Elizabeth Jane, monsieur. »«
Newson ?»«
Elizabeth Jane Newson. »
Ce simple nom disait à Henchard que la transaction de sa jeunesse à la foire de Weydon était restée cachée à l'enfant. C'était plus qu'il n'eût été en droit d'espérer. Sa femme avait fait montre de générosité à son égard et ne lui avait pas fait payer sa brutalité en révélant à sa fille ou au monde les torts dont il s'était rendu coupable.
« Vos nouvelles m'intéressent fort, » fit-il, « et comme il ne s'agit pas d'affaires, voulez-vous que nous entrions dans la maison ?»
C'est avec une douceur surprenante pour Elisabeth qu'il la fit sortir de son bureau pour traverser la pièce où Farfrae inspectait le contenu des coffres, avec l'attention méticuleuse de l'homme qui prend possession d'un service. Henchard précédait la jeune fille et la conduisit par la porte percée dans le mur, à travers le jardin et jusqu'à la maison. La salle à manger où il la fit entrer contenait encore des reliefs du repas plantureux servi à Farfrae. Elle était meublée avec profusion de meubles massifs en acajou, de vermillon le plus foncé. Au mur, s'appuyaient des tables pliantes dont les allonges abaissées touchaient presque le sol et dont les pieds affectaient la forme de pieds d'éléphant. Sur l'une de ces tables étaient posées trois énormes in-folios, une Bible de famille, un Josephus et un Devoir de l'homme. Dans la cheminée, une grille s'arrondissait en un demi-cintre cannelé, orné de festons et d'urnes en relief. Quant aux sièges, ils étaient de ce style qui a, depuis cette époque, consacré la gloire des Chippendale et des Sheraton, bien qu'à vrai dire leurs dessins fussent peut-être de ceux que ces illustres ébénistes n'avaient jamais soupçonnés.
« Asseyez-vous, Elizabeth Jane, asseyez-vous !» fit Henchard, dont la voix trembla légèrement en prononçant le nom de la jeune fille. Il s'assit lui-même, les yeux fixés sur le tapis et les mains pendant entre les genoux.
« Alors votre mère va tout à fait bien ?»
Elle est un peu fatiguée par le voyage, monsieur.
Veuve d'un marin.
Quand est-il donc mort ?
Mon père a disparu au printemps dernier.
Le mot de père, ainsi appliqué, fit tressaillir Henchard.
Viendriez-vous de l'étranger, votre mère et vous ? D'Amérique ou d'Australie ?
Demanda-t-il.
Non, nous vivons en Angleterre depuis quelques années. J'avais 12 ans quand nous sommes rentrés du Canada.
Ah, je vois.
Et ces paroles expliquaient en effet à Henchard la nuit totale où avaient paru sombrer la mère et l'enfant, nuit telle qu'il les croyait depuis longtemps dans la tombe. Il comprenait maintenant, et poursuivait en revenant au présent. « Où votre mère reste-t-elle pour l'instant ?»«
Aux 3 matelots. »«
Et vous êtes sa fille, Elizabeth Jane, » répéta Henchard. Il se leva, s'approcha de la jeune fille et la regarda en face. « Tenez, » fit-il, en se détournant brusquement, les yeux humides. « Vous allez porter un mot à votre mère. Je voudrais la voir. Son mari ne l'a pas laissée bien riche. »
Il examinait la robe noire d'Elisabeth, la plus belle robe de la jeune fille, parfaitement convenable d'ailleurs, mais manifestement démodée, même aux yeux d'un habitant de Casterbridge.
« Pas bien riche, en effet, » avoua-t-elle, heureuse qu'il eût su deviner leur gêne sans l'obliger à la révéler. Il s'assit à sa table pour écrire quelques lignes, puis, tirant de son portefeuille un billet de 5 livres, il le glissa dans une enveloppe avec sa lettre. Une arrière-pensée, peut-être, lui fit ajouter 5 shillings. Cachetant soigneusement le tout, il traça cette adresse, « Mrs. Newson, auberge des 3 matelots », et tendit l'enveloppe à Elizabeth. « Veuillez lui remettre ceci en main propre, » fit-il. « Je suis heureux de vous voir ici, Elizabeth Jane, très heureux. Il faudra que nous causions longuement, mais pas aujourd'hui. » Il prit la main d'Elizabeth et la serra affectueusement. Peu habituée à de tels témoignages d'amitié, la jeune fille fut si touchée que des larmes montèrent à ses yeux gris clairs. À peine fut-elle partie, Henchard donna libre cours à son émotion. Il ferma la porte et s'assit tout droit dans la salle, regardant sans bouger le mur opposé, comme s'il y avait lu toute une histoire. « Parbleu !» s'écria-t-il brusquement, en sautant sur ses pieds. « Je n'avais pas songé à cela. Qui sait si ce ne sont pas des imposteurs, et si Suzanne et l'enfant ne sont pas réellement mortes ?» Mais il y avait quelque chose dans l'attitude d'Elisabeth qui le rassurait. En ce qui la concernait, elle, on ne pouvait guère concevoir de doute, et dans quelques heures, il serait fixé sur l'identité de la mère, car il lui avait, dans son billet, donné rendez-vous pour le soir. « Pas de pluie sans averse !» se disait Henchard. Son intérêt si vif pour son nouvel ami l'Écossais se trouvait éclipsé par cet événement, et Donald Farfrae vit si peu son patron pendant le reste de la journée qu'il s'étonna de ses sautes d'humeur. Cependant, Elizabeth était arrivée à l'auberge. À la vue de la lettre qu'elle apportait, sa mère ne manifesta pas l'impatience d'une parente pauvre qui attend un secours, mais parut fort émue. Elle ne déchira pas tout de suite l'enveloppe, mais se fit conter par Elizabeth tous les détails de sa réception et rapporter toutes les paroles d'Henchard. Elle attendit que sa fille eût tourné le dos pour lire la lettre qui était ainsi conçue. « Venez ce soir à 8 heures, si vous le pouvez, au cirque, sur la route de Budmouth. L'endroit est facile à trouver. Je ne puis en dire plus long pour l'instant. La nouvelle m'a bouleversée. La jeune fille paraît ne se douter de rien. Laissez-la dans l'ignorance jusqu'à ce que je vous ai vu. M. H. » Il ne parlait pas des 5 guinées ajoutées à la lettre, somme insignifiante en soi, mais qui pouvait dire tacitement à la pauvre femme que son mari la rachetait. Attendant fébrilement la chute du jour, elle avertit Elizabeth Jane qu'elle devait rencontrer M. Henchard, mais voulait aller seule au rendez-vous. Elle ne dit point que cette rencontre n'aurait pas lieu dans la maison du maire et ne montra pas la lettre à Elizabeth.